Bonjour mes chers frères et sœurs, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Pour moi, ça va pas cette chaleur, mais on va pas se plaindre. Hein, cet hiver, il va faire froid et il faudra pas se plaindre non plus. Bien, on va lire Ecclésiaste 7, 20 à 22. Ecclésiaste 7, 20, 22. Non, il n'y a sur terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Alors, ça veut dire que ni vous, ni moi, nous ne sommes justes, ni vous, ni moi, nous pouvons dire je ne pêche jamais. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Car ton cœur a senti bien des fois que toi-même tu as maudit les autres. Bien, pourquoi est-ce que je lis ce passage? Bien, parce que j'ai un ami très cher qui s'appelle Joseph Ebenezer, avec lequel je corresponds, et qui m'a envoyé une photo. Cette photo représente un panneau devant une église baptiste, et sur ce panneau, il est écrit « Musiciens, heavy metal, allez tous en enfer, Dieu est le heavy metal. » Quel amour, quelle gentillesse, quelle douceur, quelle beauté, ça. Bon, je dois dire que ce n'est pas la musique que je préfère, ce n'est pas une musique que j'aime forcément bien écouter, c'est vrai, mais bon. Quand je me suis converti, en 1968, j'avais 18 ans. C'était l'époque des yéyés. Et comme tous les jeunes de mon âge en Suisse, ben, j'écoutais Salut les copains, SLC, Salut les copains, tous les vieux connaissent, hein. Du moins. Ceux qui ont, comme la chanson dit, n'est-ce pas, je vous parle d'un temps que ceux de moins de 20 ans ne peuvent pas. Je ne sais plus comment ça va la chanson. Une chanson de Charles Aznavour. Ça vaut bien du heavy metal, non? C'est du monde aussi, non? Bon, n'empêche que vous la connaissez. J'écoutais Salut les copains sur Europe 1 et je me privais même des fois de manger pour pouvoir m'acheter les disques de Sylvie Vartan, et j'avais toute la collection de Sylvie, de Johnny, des Beatles, etc., etc., etc. Il y avait juste Eddie Mitchell que j'aimais pas trop, que j'ai appris à aimer plus tard. Bref, arrivé dans l'église, j'ai eu droit à un sermon carabiné. Sylvie Vartan et tous les yéyés, c'était du diable. Et j'ai dû tout jeter, sinon, pas de baptême. C'était comme ça. Mais je suis sûr que c'est encore comme ça dans beaucoup d'églises. Ils m'ont fait aussi jeter des livres que j'avais depuis mon enfance, des livres que j'avais depuis même avant que je sache lire, puisque c'était ma mère qui me lisait des histoires, comme par exemple des histoires de la comtesse de Ségur, les malheurs de Sophie, toutes ces histoires-là. Eh bien, j'ai dû tout jeter à la poubelle parce que c'était diabolique. Pourquoi c'était diabolique? Parce que c'était du monde. Hein? On ne faisait pas référence à Jésus, au salut par la croix, donc c'était du diable. Certains m'ont dit que quand ils passaient devant une librairie, genre Payot à Lausanne, je ne sais pas si vous connaissez Payot, c'est une librairie voilà, normale, quoi, je veux dire, eh bien, ils sentaient des mauvaises présences. Je disais, ah bon, moi je sens rien du tout, je dois être charnel. Le sport aussi, c'était du diable. Le sport, c'était du diable. La télé aussi, c'était du diable. Je me rappelle toujours qu'un soir, j'ai été invité chez un pasteur qui prêchait contre la télé, et puis au milieu de la nuit, j'ai eu une petite envie, et j'ai été à tâtons, cherchant les toilettes, et je me suis trompé de porte. J'ai ouvert la porte d'un cagnard, comme on dit en Suisse, c'est-à-dire d'un réduit, et là j'ai vu une télé. Il l'avait cachée parce qu'il savait que je venais. Donc il avait la télé chez lui, mais du haut de l'estrade, il disait que c'était du diable, donc il avait le diable chez lui. Voilà, ça m'a donné un petit peu à réfléchir. La radio, alors on pouvait avoir une radio pour écouter des infos, mais en dehors des infos, pas de ça chez un chrétien, c'est du diable. J'avais 18 ans. Et puis je les croyais parce que j'étais naïf, et puis n'avais-je pas vu des miracles extraordinaires dans cette église? Donc, hop, toutes ces diableries à la poubelle. Et puis, quelques mois après, j'ai quand même réfléchi en lisant les Écritures, et j'ai vu un texte terrible dans 1 Jean, attendez voir que je vous le retrouve, 1 Jean 2,15, qui est terrible, qui dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point dans lui. » Alors évidemment, si on s'arrête là, c'est terrible. C'est terrible. On a tout ce qui est dans le monde, on ne doit rien aimer de ce qui est dans le monde. Vous aimez le steak frites, c'est du monde, il ne faut pas aimer. Voilà. C'est un exemple un peu absurde que je donne, mais c'est juste pour vous faire comprendre. Alors, ne pas aimer le monde est pris dans son sens le plus strict, là, dans ce verset, ça fait terriblement peur. Mais pourquoi je ne dois pas aimer le monde? C'était la question, alors que Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, est-ce qu'il y a deux sortes d'amour? L'amour que Dieu a pour le monde, et puis l'amour que moi j'ai pour le monde? Est-ce que c'est deux choses? Est-ce qu'il y a deux amours différents? Dieu a aimé les gens de ce monde. Je suis sûr qu'il aurait... Il aime bien Sylvie Vartan. Il aime tout le monde, non? Et il aime bien tout ce qui est dans ce monde, il a même fait des très belles choses, il a créé des très belles choses dans ce monde. Il ne faut pas aimer un coucher de soleil, c'est du monde. Il ne faut pas aimer les fleurs, il ne faut pas aimer... Non, c'est dans le monde, il ne faut pas aimer ce qui est dans le monde. Or, ce que Dieu ne veut pas que nous aimions, c'est dans le verset suivant. Alors je vous relis le texte. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, virgule, la convoitise de la chair, virgule, la convoitise des yeux, virgule, et l'orgueil de la vie, virgule, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Ah, voilà, il précise maintenant les choses du monde qu'on ne doit pas aimer. En fait, si on regarde bien ce texte et qu'on compare avec ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, on s'aperçoit que Adam et Ève, ils sont tombés dans le piège de la convoitise, en fait. C'est écrit qu'elle a vu que l'arbre était bon à manger, elle a vu que c'était agréable, que c'était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle a convoité et puis elle a consommé. Ben voilà. Si Dieu leur avait dit d'en consommer, ce fruit aurait été délicieux. Pourquoi? Parce qu'il l'était. Mais Dieu a dit non, je ne veux pas que vous en consommiez. Voilà. Pourquoi? Ben Dieu le sait. Dieu leur a interdit. Alors réfléchissons. Cela signifie que tout ce qui peut aliéner notre relation avec Dieu et tout ce qui peut apporter la mort n'est pas digne de l'amour que nous avons pour Dieu. C'est ça que ça veut dire. Tout est pur pour ceux qui sont purs, nous dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 14. Je vais vous le lire correctement. Romains chapitre 14, verset 17. Non, verset 13. Écoutez bien. Il dit, ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Le musicien de Heavy Metal qui passe devant le panneau, il dit « Ah bon, je veux en enfer ?» Ok, d'accord, j'ai compris. C'est pas dans cette église-là qu'il faut que j'aille trouver du réconfort et de la compassion. C'est une occasion de chute pour lui, ce panneau. Et il est dit « Pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » Le musicien, là, il dit « C'est pas mon frère, c'est ton frère humain. Tu dois rien faire pour le choquer. » Je sais. Il dit, continue, et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, pour une musique, ou pour n'importe quoi, mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas par ton aliment la perte de celui qui pourrait la perte de celui pour lequel Christ est mort. C'est-à-dire, Jésus-Christ est mort pour ses musiciens, et toi, avec ton jugement sévère, méchant, condamnateur, tu es une pierre d'achoppement, et tu peux causer la perte de celui pour lequel Christ est mort. Tu vois un petit peu ? Est-ce que tu vois un petit peu ? Ensuite, il dit que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, ou la musique que tu écoutes, ou ce que tu bouffes, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu, et il est approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Eh bien, moi, je dis que ce panneau ne contribue pas du tout à l'édification de personne. Ça, c'est moi qui dis, hein. Mais maintenant, j'ai de bonnes raisons de le dire. La musique du monde est-elle interdite ? Si oui, alors toute la musique est interdite. Parce qu'elle est toute du monde. Mozart était du monde. C'est un petit rigolo. Et pourquoi les chrétiens écoutent du Mozart ? Parce que c'est de la musique classique. Beethoven, Lully, sont-ils du diable ? Ben, il semble que non, parce que les chrétiens écoutent volontiers cette musique. Hein. Volontiers, ils écoutent ça. Voilà. Alors, quand je me suis converti, j'ai aimé la musique qui était jouée par l'équipe du pasteur gitan, Raphaël. C'était de la musique tzigane. Mais je ne pouvais pas écouter à longueur de journée de la musique tzigane, ça me cassait les pieds au bout d'un moment. On a besoin de variété, on ne mange pas tous les jours des pâtes, on mange aussi des pommes de terre, on mange aussi des légumes, des fruits, toutes sortes de choses. Et bien pour la musique, c'est la même chose. Je ne pouvais pas écouter tout le temps de la musique chrétienne tzigane, donc je suis allé dans une librairie chrétienne à Lausanne, juste en dessous de la place de la Palue, maintenant ça n'existe plus. Et ils vendaient des disques. Alors c'était les disques de l'armée du salut, il n'y avait que ça. Alors c'était une dame et un monsieur qui jouaient de la guitare et qui chantaient « Le téléphone de Jésus, Jésus répond toujours, Alléluia !» Mon Dieu, ça me changeait un peu de « Si je chante, c'est pour toi !» Je ne pouvais pas écouter cette musique. Ou alors j'aurais dû, je sais pas, naître de nouveau, c'est ça, naître de nouveau, c'est tout d'un coup ne plus aimer les choses agréables et belles, et c'est d'aimer les choses vieillottes, c'est ça. Je me rappelle qu'un jour, il y avait un film qui était sorti, c'était avec Alain Delon et Jean-Paul Belmondo, c'était Borsalino, le premier Borsalino. Et ça a lancé une mode formidable, et je me suis payé un costume Borsalino. C'était magnifique, un costume rayé, vous savez. Bleu marine, rayé. Je me pointe à l'église le dimanche matin avec ça. Oh là 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 là, j'étais à la mode. Donc c'était du diable. Mais on m'a dit, on veut plus te voir à l'église avec ça. C'est du diable. Le pasteur, lui, était habillé à la mode d'il y a 30 ans en arrière. Lui, c'était pas du diable. La mode de 30 ans en arrière, ça n'est pas du diable. Ça m'a fait réfléchir quand même. Ça m'a fait réfléchir. Et puis alors, il y avait d'autres musiques, on chantait des cantiques. Moi, je me rappelle, quand j'étais dans l'église protestante, on chantait des cantiques de la réforme, des choses grandioses, magnifiques, qui nous élèvent avec des paroles formidables. C'était une époque, mais quand je suis arrivé dans l'église évangélique, on chantait « Un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, une couronne, la sainte joie ». C'était très bien, c'était très entraînant. Je me suis renseigné sur cette musique, en fait. Ils ont mis des paroles chrétiennes sur une marche militaire allemande. Et ils sentaient le Saint-Esprit. Et puis, un jour, j'ai entendu, toujours dans cette même église évangélique, un chant, c'était « Quand je sombrais dans la boue du péché, Christ m'a délivré. » C'est une java. Ah, la java, c'est pas du diable alors. C'est pas du diable. Ben non. Ah oui, mais vous comprenez, on a mis des paroles chrétiennes dessus. Oui, mais quand même, c'est une java. C'est un rythme du monde, faut pas aimer ce qui est dans le monde. Sinon, l'amour du Père n'est pas en vous. J'aurais aussi pu faire un panneau. Les musiciens de Java ou de marche nazie sont du diable, ils doivent aller tous en enfer. Ça. Ces chants dits chrétiens, c'était simplement de la musique du monde avec des paroles pieuses collées dessus. Rien à voir avec ces beaux chants de la réforme que je chantais à l'église protestante. Alors, où est le problème? Eh bien, le problème, il se situe dans le temps. Il y a des conflits de génération dans l'église comme il y a des conflits de génération dans les familles. Moi, j'ai 69 ans. Je n'apprécie pas beaucoup le rap. Je n'apprécie pas beaucoup la musique, le métal, parce que je suis un vieux. Je suis un vieux, je n'ai pas été éduqué dans ce style de musique, je n'ai pas l'oreille pour ça, ça ne me plaît pas. Mais je ne vais pas condamner, diaboliser cette musique juste parce qu'elle ne correspond pas à mon goût personnel. Mon papa, Charles Genton, n'aimait pas du tout les yéyés. Et en particulier, Sylvie Vartan, il ne l'aimait pas du tout. Il disait « Oh, elle a des yeux de vache mourante, elle est souple comme un toboggan, elle passera pas l'hiver, c'est une mode d'été, c'est fini, après on n'entendra plus parler. » Et ça fait 56 ou 57 ans qu'elle chante, elle remplit toujours les salles. Mais bon, c'est une autre histoire. Mais mon père était intelligent, il me laissait écouter cette musique. Il était intelligent, il n'était pas chrétien. S'il avait été chrétien, peut-être qu'il aurait été moins intelligent. C'est malheureux à lire, hein. Mais c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Maintenant, on me dit que dans certains textes de musique du monde actuel, il y a des paroles sataniques. Ok, moi je sais pas, c'est en anglais, puis même si c'est en français, j'écoute pas. Donc voilà, je sais pas. Mais il y a plein d'impuretés dans les chansons. Tiens, je prends quelqu'un de très vieux, de Maurice Chevalier. Valentine, Valentine, elle avait de tout petits petons que je tâtais à ta ton tête. C'est impur, hein? Et Pierre Perret, je vous en chanterai pas une, mais bon. Eh bien, si ça ne vous plaît pas d'écouter ça, ben vous ne l'écoutez pas, puis c'est tout. Mais vous allez pas dire Pierre Perret en enfer. Mais c'est. C'est ça la mission des chrétiens? Si certaines paroles offensent vos chastes oreilles, mais vous n'écoutez pas, c'est tout. Vous n'aimez pas Ruquier les grosses têtes, vous n'écoutez pas, c'est tout. Voilà, c'est pas plus compliqué. Mais vous n'allez pas dire, ouais, Ruquier en enfer, Jacques Martin en enfer, Bouvard en enfer, tout simplement parce que il ne parle pas de Jésus comme un bon pasteur. Et c'est pareil pour la littérature, c'est pareil pour le cinéma, c'est pareil pour la TV, c'est pareil pour la nourriture. La nourriture. Moi, j'aime pas le poisson pané, je déteste ça. Ben, j'en mange pas, c'est tout. Mais je n'interdis pas à ma femme d'en faire. D'en faire. Je dis pas que le poisson pané vient de l'enfer, ni que ceux qui le fabriquent sont des personnes démoniaques. Je ne diabolise pas ce que je n'aime pas. Simplement, je ne l'aime pas, je n'en prends pas, puis c'est tout. Et puis, je ne vais pas faire une doctrine qui condamne les gens qui aiment ce que je n'aime pas. Hein? Tino Rossi. Tino Rossi choquait les vieux chrétiens avec Marinera, talidadidadadada, ça les choquait, ouais. Jean Sablon, encore plus vieux, qui était alors lui c'était un diabolique par excellence quand il chantait avec sa voix suave, vous qui passez sans me voir, c'est diabolique, hein. Est-ce que nous passerons l'éternité avec le répertoire d'Annie Cordy, avec le répertoire de Beethoven, avec le répertoire de Sylvie Vartan, avec le répertoire de Jean-Sébastien Bach? Non. Peut-être, j'en sais rien, mais à mon avis, non. Est-ce que nous ne mangerons au paradis que de l'agneau et du poisson sous prétexte que Jésus en mangeait quand il était sur terre et que c'est les seules choses qu'on peut manger? Ah, il y a du pain aussi, du vin. Tiens, il y a même des chrétiens qui disent que le vin, c'est diabolique. Est-ce qu'on n'aura pas le droit à un bon steak tartare avec du tabasco? Ou à des filets mignons, des morilles? Non, juste de l'agneau, du poisson, sous prétexte que dans la Bible, c'est écrit que Jésus en mangeait? Alors le poisson et l'agneau, c'est pas du monde? Il faut arrêter d'être bête. Parce que c'est du monde et que Jésus-Christ n'en a jamais mangé, du filet mignon, ça, eh ben, on n'a pas le droit non plus. Voilà. Mais il faut aller jusqu'au bout des pensées idiotes. Ou alors il faut en sortir. Nous vivrons éternellement avec Dieu, notre Père céleste bien-aimé. Nous serons avec lui pour l'éternité. Si nous l'avons cru ici-bas sur terre et si nous avons persévéré à faire le bien, c'est ce que nous dit la Bible. Mais faire le bien, mes frères et sœurs, ne consiste pas à envoyer en enfer les musiciens, les acteurs, les cuisiniers, les artistes, etc., etc. Faire le bien ne consiste pas à envoyer en enfer tous les gens qui ne correspondent pas à ce que nous aimons. Si tu condamnes, tu n'aimes pas, et ça, c'est plus vilain que de faire de la musique métal. Ne pas aimer. Une personne qui se dit chrétienne et qui condamne des gens est une personne qui n'est pas chrétienne, c'est une personne qui est orgueilleuse, parce qu'en fait, elle n'a pas le pouvoir de condamner les gens. Personne n'a le pouvoir de condamner les gens. Il n'y a que Dieu qui peut condamner et qui sait qui sera condamné. Dieu seul sait qui sera condamné. Une personne qui dit, ces gens-là iront en enfer ou vont en enfer, ce sont des orgueilleux. Et justement, l'orgueil est cité comme une chose du monde que nous ne devons pas aimer. Aimons les orgueilleux. Et conduisons-les à Jésus, prions pour eux, mais ne soyons pas orgueilleux nous-mêmes en jugeant et en condamnant ce qui ne nous plaît pas ou ce qui ne correspond tout simplement pas à notre génération dans l'affaire de goût. Tout ce qui était nouveau a toujours été condamné. Regardez en art, le cubisme, toutes ces choses-là, quand c'est sorti, c'était. Tout le monde critiquait, tout le monde jugeait, tout le monde. Puis maintenant, ben voilà. Ce que nous ne devons pas aimer, ce sont les choses de la société humaine qui sont organisées par l'égoïsme d'une humanité qui a rejeté Dieu et qui veut mettre les gens dans un esclavage et dans la médiocrité. Ça, nous ne devons pas aimer. Ce que nous n'aimons pas, ce ne sont pas les gens. Ce sont ce qu'ils produisent, comme l'autoritarisme d'un gouvernement, comme la pornographie, comme l'adultère, comme la prostitution, comme l'inceste, comme les rapports sexuels entre célibataires. Nous n'aimons pas, nous ne faisons pas. D'accord? Mais nous n'avons pas le droit de condamner. Jésus a dit, les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Nous n'aimons pas la philosophie qui dit j'ai le droit de faire ce qui me plaît. Non, parce que nous savons que nous n'avons pas le droit de faire ce qui nous plaît. Nous n'aimons pas l'esprit de rivalité qui existe dans ce monde et qui met les gens dans une espèce de compétition malsaine. Nous n'aimons pas non plus l'idolâtrie et aimer quelqu'un. Un artiste, c'est pas forcément de l'idolâtrie. J'aime ma femme, je l'idolâtre pas. J'aime écouter un bon disque de Count Basie, je l'idolâtre pas. J'ai pas une image de Sylvie Vartan dans ma chambre ou dans une chapelle particulière et je me prosterne pas. Je me prosterne pas devant elle. Un vrai chrétien n'aime pas la religiosité, ce petit esprit mesquin, condamnateur, mauvais. Voilà comment un chrétien fonctionne. Je vais vous montrer comment un chrétien fonctionne. Je vais vous lire ça dans Éphésiens chapitre 4, verset 17. Écoutez bien, c'est très beau. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Mais si cette ignorance est en eux, c'est parce que très souvent les chrétiens les condamnent et les jugent plutôt que d'aller les évangéliser. Et à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toutes sortes d'impuretés jointes à la cupidité. C'est ça qu'on ne doit pas aimer. Ce n'est pas les gens qu'on ne doit pas aimer, mais c'est ça, c'est cet état d'esprit, cet esprit qui est là. Mais vous, ça s'adresse aux chrétiens, vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, pas dans la religion, hein, en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, voyez encore les convoitises, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncer au mensonge, voyez ce qu'il faut renoncer, renoncer au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sous votre colère. Et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Eh bien, je ne crois pas que le panneau de ces chers amis baptistes serve à l'édification et à communiquer une grâce à ceux qui le lisent. Les musiciens qui lisent ça, ils disent, ouais, ouais, leur bondieuserie, excusez-moi, hein, mais ils disent, c'est toute la connerie. Mais ils ont raison. Cette religion, je ne dis pas la religion baptiste, mais c'est cette religiosité à la noix de coco à deux balles, mais c'est de la connerie. Il faut arrêter avec ça. Ou alors aller jusqu'au bout et ne rien aimer de ce qui est dans le monde. Rien. Vous avez une maison ? Terminé. Allez. Partez comme ça, évangélisez, vivez comme un ermite dans une grotte. Non, mes frères et sœurs, passez un bon moment entre amis, en famille, entre chrétiens, en buvant modérément quelque chose de bon, en mangeant de bonnes choses, en écoutant de la bonne musique, celle qu'on aime, en n'imposant pas à nos amis la musique qu'ils n'aiment pas, ben... Cela, c'est vivre dans le monde sans être du monde. Vous voyez, Jésus l'a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. Hein? Nous sommes des gens de Dieu et nous efforçons de vivre comme Dieu le veut. Mais Dieu ne veut pas que nous condamnions les autres. Il ne veut pas que nous les condamnions, mais que nous les aimions comme lui les aime. En se sacrifiant même pour eux. Vous voyez ? En se sacrifiant même pour eux. Alors, il y avait un homme de Dieu qui s'appelait William Branham, et il tapait tout le temps sur Elvis Presley, parce qu'Elvis Presley, c'était l'homme à la mode à son époque. Il y a encore des vieux qui aiment Elvis Presley, même quelques jeunes encore. Mais lui, c'était son cheval de bataille. Il n'y avait pas... Sur trois prédications, dans au moins... Une sur trois, il tapait sur Elvis Presley. Et il disait, c'est un Ricky et tout. Et voilà, il disait du mal. Puis après, pardonne-moi Seigneur, j'ai dit que je ne dirais plus jamais ça. Mais il s'énervait après Elvis Presley. Puis après, il demandait pardon. Mais il recommençait tout le temps. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Évangélisez-les, ces gens. Il n'y a personne qui va les évangéliser. Moi, je regarde, par exemple, je vais souvent, quand elle passe à Paris, je vais voir Sylvie Vartan, parce que j'aime bien depuis que je suis gamin, et puis voilà, ça me rappelle des bons souvenirs, puis je connais plein de gens qui tournent autour, Et voilà, ça fait plaisir de retrouver ses amis. Ils sont pas chrétiens, enfin j'en sais rien. Sylvie est catholique, très catholique, mais elle est pas. On peut pas dire qu'elle est née nouveau, mais c'est bon. J'apprécie sa musique. Bon, voilà, ça c'est mon, c'est moi, quoi. Mais quand je vois comment elle est entourée de gens qui la flattent. Oh, vous êtes belle, oh, vous êtes merveilleuse. Ou alors de gens qui la critiquent. Oui, Sheila est mieux que vous. Âneries, elle entend beaucoup d'âneries, mais combien de fois elle entend quelqu'un qui lui parle de Jésus? Ben moi j'y parle de Jésus. J'ai plusieurs fois parlé de Jésus avec cette femme. J'ai donné une Bible, j'ai donné mon livre. À chaque fois que je la vois, j'ai l'occasion d'échanger quelques mots avec elle et je lui parle de ma foi en Jésus-Christ. Elle est très respectueuse. Et je prie toujours pour elle et j'espère qu'un jour aussi, eh bien, elle va faire une bonne rencontre avec Jésus et naître de nouveau. Savez, il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sots gens. C'est son métier, elle chante, c'est son métier. Maintenant, elle chante pas Jésus vraiment. Ben voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Un cuisinier, qu'est-ce que vous attendez quand vous allez dans un restaurant qui vous parle de Jésus? Non, vous attendez à ce qu'il vous fasse un bon petit plat. Quand vous avez une fuite d'eau chez vous, vous demandez à un plombier, vous vous attendez à quoi? Qu'il vous parle de Jésus? Non, vous attendez à ce qu'il répare votre panne, votre problème, l'électricien. Tout le monde, on attend, chacun a sa spécificité. On n'a pas à juger et à condamner certains corps de métier. Les catholiques sont très forts, en fait. Ils ont diabolisé Molière, ils l'ont excommunié, ils l'ont. Mais non, mais c'est invraisemblable. Mais mes frères et sœurs, il faut que nous soyons intelligents. Il faut que nous nous élevions contre la bêtise. Et que nous aimions, et que nous fassions le bien, que nous ne condamnions pas, mais que nous bénissions, et que nous disions des paroles qui édifient, et qui font du bien, et qui aident les gens. Il faut arrêter d'être des condamnateurs. Je supporte plus ces gens-là. Seigneur Jésus, aide-les à changer, peut-être si c'est possible, et bien qu'ils puissent écouter ce message aujourd'hui. Merci mon Dieu d'inspirer aussi quelques chrétiens qui écoutent en ce moment, qui sont un peu troublés avec ce texte, n'aimez pas le monde ni ce qui est dans ce monde, et que cette prédication les éclaire et leur fasse comprendre qu'il y a de toutes sortes de choses dans ce monde et que tu ne nous interdis pas d'en jouir avec modération et d'être pur, d'être propre, même si voilà, ça ne parle pas tout le temps de la rédemption ou de voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'espère que je ne vous ai pas trop choqué en vous chantant du Tino Rossi. Enfin, déjà, je ne vous ai pas chanté du Pierre Perret. Écoutez, écrivez-moi, dites-moi ce que vous pensez. Dites-moi franchement ce que vous pensez. Si c'est pour condamner, je vous vire, hein, ceux qui envoient des paroles condamnatrices, je vous vire. Mais envoyez-moi des choses constructives, même si vous avez à me reprendre, si vous trouvez que j'ai tort sur certains points, reprenez-moi. Mais me condamnez pas. Si vous me condamnez, c'est terminé. Ah non, 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 moi je ne supporte plus cet état d'esprit. Il n'y a que Dieu qui peut condamner, personne d'autre. Allez, je pense que vous m'avez bien compris, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Au revoir, à bientôt, bye.